15h, 16h, sans rendez-vous sur Europe 1. Mélanie Gomez.
Bonjour et bienvenue dans votre nouvelle émission Santé et Bien-être, une émission que nous avons baptisée Sans Rendez-vous parce que chez nous, pas besoin de réserver une place, la porte est ouverte, vous venez quand vous voulez. Tous les jours, nous répondons à vos interrogations, idées reçues, petits bobos, grands dossiers, questions sexo. Sans Rendez-vous, l'émission dans laquelle vous allez tout comprendre et surtout, nous allons parler de tous les sujets sans tabou, c'est sur Europe 1. Il est à mes côtés tous les jours, le docteur Jimmy Mohamed. Bonjour Jimmy.
Bonjour Mélanie.
Alors au sommaire aujourd'hui, notre grand dossier sera consacré au combat, à un combat que de nombreux parents doivent mener parfois à plusieurs reprises chaque année, le combat contre les poux. Ces petits parasites qu'on déteste, sont-ils vraiment devenus résistants à tous les produits? Comment s'en débarrasser? Surtout, nous ferons le point avec notre invité, le docteur Areski Isri, parasitologue, à l'hôpital Avicenne de Bobigny. Le docteur Jimmy Mohamed, lui, nous livrera son bon conseil du jour. Aujourd'hui, il va nous parler des saignements pendant la grossesse. Quand faut-il s'inquiéter et faut-il systématiquement consulter en urgence? Ensuite, dans notre chronique Les mots du quotidien, on va parler de la NASH, ça vous dit rien comme ça peut-être, mais c'est pourtant la maladie du siècle selon les spécialistes du foie. Cette maladie, qu'on dit aussi maladie du foie gras, est de plus en plus fréquente. Enfin, vers 15h50, ce sera la chronique sexo de l'émission avec Catherine Blanc, notre sexologue. Aujourd'hui, il sera question de baisse de libido qui touche parfois les hommes et vous verrez, oui, que ce n'est pas qu'un problème féminin. Mais tout de suite, pour ouvrir votre magazine santé, le vrai faux, vos questions au 3921 sur le répondeur d'Europe 1.
Mélanie Gomez vous reçoit sans rendez-vous sur Europe 1.
Et donc tout de suite, on écoute la première question, c'est celle de Valérie.
Bonjour Mélanie, bonjour docteur Jimmy Mohamed. Je vous appelle puisque j'ai entendu qu'une personne séropositive n'était pas forcément contagieuse. Est-ce que vous pouvez m'en dire un petit peu plus? Est-ce que c'est vrai? Merci pour vos réponses.
Eh oui Jimmy, alors une personne séropositive, c'est vrai, hein, peut ne pas du tout être contagieuse, à condition bien sûr qu'elle soit sous traitement antiviral, hein, c'est ça?
Oui, et là on parle de relations sexuelles évidemment, parce qu'une personne séropositive n'est pas contagieuse à travers la salive. Certaines idées reçues pensent encore que donner un bisou à quelqu'un pourrait transmettre le virus, c'est par les relations sexuelles et par le sang que ça peut se transmettre. Mais oui, c'est peu connu, mais effectivement, une personne qui serait contaminée par le virus du VIH et qui aurait sa maladie bien équilibrée avec le traitement qu'on peut encore appeler les traitements, les trithérapies, les antirétroviraux, peut ne pas être contagieuse, notamment lors des rapports sexuels. Et ces traitements ont permis à la fois de donner une très bonne qualité de vie, c'est-à-dire que leurs symptômes ont quasiment disparu, d'éviter des complications et notamment les infections opportunistes, mais en plus d'avoir des relations sexuelles sans contaminer son partenaire.
Et donc ça a vraiment été prouvé, hein, quand on est sous trithérapie, de manière scientifique, je veux dire, on ne transmet pas du tout le virus.
Oui, par plusieurs études, on va en citer une, c'est l'étude Partner 2 qui a été dévoilée en 2018. Alors pendant 8 ans, les chercheurs ont suivi près d'un millier de couples d'hommes homosexuels issus de 14 pays. Les couples devaient avoir des statuts séro différents, c'est-à-dire que l'un devait être séropositif, c'est-à-dire atteint par le VIH, et l'autre séronégatif. Ces couples ont eu des rapports sexuels, on a recensé plus de 77 000 entre 2010 et 2018, et résultat, durant cette période, aucun des partenaires n'a été contaminé dès lors que la maladie était stable et traitée chez son partenaire.
Parce qu'ils avaient donc une charge virale qu'on appelle indétectable. Et si le porteur du VIH est bien traité, donc avec une charge virale qu'on dit indétectable dans le sang, il n'est plus contagieux. En revanche, ça vaut que s'il prend bien ses médicaments. Hein. S'il la rate un jour ou quoi, ça c'est plus pareil.
Exactement.
Hein.
Et vous l'avez dit, c'est charge virale indétectable. Et on fait des prises de sang régulièrement pour être sûr que tout va bien. Et ça n'empêche pas malgré tout de se protéger avec des préservatifs si on a des relations sexuelles avec d'autres partenaires, puisqu'on a une recrudescence des infections sexuellement transmissibles, comme la syphilis, le chlamydia, le gonocoque. Bref, vous pouvez avoir des relations sexuelles, mais ça ne protège pas des IST dont on a parlé.
Très bien, merci beaucoup Jimmy. Alors on va passer à la deuxième question d'auditeur. Cette fois, c'est Stéphane, 33 ans. On l'écoute.
Bonjour Mélanie, bonjour Jimmy. J'ai mon fils qui est asthmatique et en ce moment, il fait de plus en plus de crises. Je voulais savoir à quoi c'est dû.
Alors ça, le pic de crise d'asthme là, chez les enfants atteints à la rentrée, je dirais que c'est presque un classique, non Jimmy?
Oui, c'est vrai qu'au moment de la rentrée, alors du fait des virus qu'on a en ce moment,
donc vous les voyez,
chance,
vous, hein,
oui, je les vois, il y en a énormément en ce moment, du fait de la météo qui change, du fait que les enfants retournent en collectivité, du fait que nous reprenions les transports en commun, il y a plein de virus qui arrivent et on sait que chez un enfant asthmatique dont la maladie serait bien équilibrée, le fait de rencontrer un petit virus qui chez nous donnera une petite rhinopharyngite pourra donner ce qu'on appelle une exacerbation de la maladie et c'est ce qui fait qu'on voit de plus en plus d'enfants sifflés en cette rentrée.
Alors ça, c'est la première explication, c'est les virus qui circulent, mais il n'y en a pas une autre peut-être ?
Oui, il y a une part allergène évidente dans l'asthme. Même si on n'est pas allergique à quelque chose, on peut être plus sensible notamment à la pollution. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, on est plus exposé, on a pu être un peu à l'air frais durant les vacances. Et puis, on se retrouve dans des classes confinées qui n'ont pas été forcément aérées pendant 2 mois, pleines de poussière ou d'autres allergènes, et qui font que bah là, ça tombe tout de suite sur les bronches et l'enfant fait des crises avec une part allergique évidente.
Donc ce recrudescence à la rentrée, effectivement, ça s'explique. Et puis, est-ce que c'est pas aussi parce que pendant l'été, finalement, on laisse tomber un petit peu le traitement de fond, peut-être ?
Oui, parce que quand on est asthmatique, le but, c'est d'avoir une qualité de vie normale et de finalement de pas avoir de symptômes. Et pour ne pas avoir de symptômes, bah, certains enfants asthmatiques ont besoin d'un traitement de fond à base de corticoïdes inhalés. Tous les jours, toute l'année. Et comme ça va bien en été, puisqu'on on prend l'air frais, il y a moins de virus, et ben on le prend un peu moins parce qu'on ne se sent pas malade.
On oublie de le prendre dans les valises.
Ouais. Ça, c'est un vin classique parce qu'on prend la crème solaire, on oublie le petit flacon. Et ben à la rentrée, forcément, dès lors qu'on chope un petit virus, la maladie repart de plus belle. Et dans ces cas-là, il faut reprendre le traitement de fond, souvent pour une période de 3 mois. Et aux asthmatiques, on leur conseille de le prendre durant toute la période d'hiver. Ça va jusqu'à globalement au mois de mars.
D'accord. Merci beaucoup Jimmy pour tous ces conseils. Alors si vous aussi, comme Stéphane qu'on vient d'entendre, vous voulez nous laisser vos questions santé bien-être au 39-21, 50 centimes d'euros la minute, surtout n'hésitez pas, nous y répondrons au plus vite avec le docteur Jimmy Mohamed.
Europe 1.
Dans un instant, le docteur Jimmy Mohamed va vous donner son bon conseil du jour. Aujourd'hui, il va nous parler des saignements pendant la grossesse. Et puis, on accueillera aussi notre invité du jour, le docteur Areski Isri, parasitologue à l'hôpital Avicenne de Bobigny. Avec lui, vous allez voir, vous allez apprendre tout plein de choses sur les poux. Des choses étonnantes, vous saviez que les poux, ils sont là depuis toujours. On en a même retrouvé sur des momies égyptiennes. Mais surtout, on vous dira évidemment comment s'en débarrasser. Ne restez surtout sur Europe 1.
Europe 1,
sans rendez-vous.
Mélanie Gomez.
Heureuse de vous retrouver dans Sans Rendez-vous, votre nouvelle émission Santé Bien-être. Nous sommes ensemble comme chaque jour de la semaine jusqu'à 16h. À mes côtés, le docteur Jimmy Mohamed, avant de retrouver dans quelques minutes notre invité, le docteur Areski Isri, parasitologue qui va tout nous dire sur les poux. C'est le moment du bon conseil du docteur Jimmy Mohamed. Alors aujourd'hui Jimmy, vous nous parlez des saignements pendant la grossesse. On est d'accord Jimmy, saigner quand on est enceinte, on doit toujours consulter, non ?
Oui, s'il y a un message à retenir de ce petit conseil, c'est si jamais vous avez des saignements, quel que soit le terme de votre grossesse, au début, au milieu, à la fin, vous devez impérativement consulter votre gynécologue ou vous rendre aux urgences, même si vous avez l'impression que ce n'est pas très grave. Évidemment que souvent, on ne retrouve pas grand-chose et une grossesse sur 4 présentera des saignements. Mais néanmoins, si vous saignez, il faut absolument consulter. Ne vous dites pas, c'est pas grave, ça va passer, on verra bien, ce n'était pas très important. Et au moindre doute, vous passez un coup de fil à votre sage-femme ou à votre médecin généraliste.
Alors même si c'est pas très abondant, les saignements, on consulte, on a bien compris. Mais dans quel délai est-ce que vous dites, on appelle le gynéco, enfin c'est le jour même, demain
Non, il faut appeler le jour même. Alors, il y a un cas de figure qui peut être un tout petit peu différent. C'est au tout début de grossesse, il peut y avoir ce qu'on appelle, alors c'est pas vraiment des saignements, ce qu'on appelle des spottings, donc des petites pertes un peu noirâtres, marron, qui signent la nidation, c'est-à-dire l'installation finalement de l'œuf dans la cavité utérine. Et à ce moment-là, on sait que 7 à 8 jours après cette nidation, il peut y avoir des petits saignements. Mais même cela, il faut malgré tout aller voir votre sage-femme qui, dans le moindre doute, vous fera faire une prise de sang et contrôlera
si
par
besoin.
Une échographie. Après, si vous avez des saignements abondants, notamment avec des douleurs abdominales, est évident qu'il faut vous rendre aux urgences gynécologiques et ne pas attendre un rendez-vous ni chez le gynécologue, ni chez le médecin généraliste.
Parce qu'évidemment, en début, ça peut être une fausse couche et puis après, parfois même encore plus grave. Parce que j'imagine que le risque, il dépend quand même du terme de la grossesse.
Exactement. Vous l'avez dit, au premier trimestre, le risque est dominé par les fausses couches. On sait que c'est 20% des grossesses, donc quelque chose qui est très fréquent. Donc si jamais vous saignez à ce moment-là, il ne faut pas hésiter à consulter. Et on ne veut jamais aux urgences. On vous dira, oh là là, vous consultez pour rien, un saignement doit amener à consulter. Il peut y avoir des petits saignements, qu'on dit normaux, notamment si on a ce qu'on appelle un ectropion au niveau du col, notamment
alors ça,
après les saignements.
Vous allez nous dire ce que c'est qu'un ectropion ?
Un ectropion, finalement, c'est comme un espèce de bouton au niveau du col qui fait que ça saigne, en fait. C'est une excroissance et qui fait que lors des rapports sexuels, du fait de frottement,
ça fait
on peut avoir des petits saignements, notamment qu'on n'a pas détecté avant la grossesse.
Mais
donc
c'est
ça, c'est pas très grave.
Mais
la sage-femme, ou le gynécologue ou le médecin traitant, avec un spéculum, identifie le saignement et on n'en parle plus. Ensuite, il peut y avoir ce qu'on appelle un petit décollement plainsataire. C'est le trophoblaste qui va se décoller et donner un petit saignement, mais qui va rentrer dans l'antre tranquillement, mais pour lequel il faut faire une échographie. Vient ensuite, au deuxième et troisième trimestre, les causes qui peuvent donner des complications et mettre en jeu le pronostic vital du fœtus ou de la maman. On retiendra deux causes un peu graves, l'hématome rétroplacentaire qui associe douleur abdominale intense et saignement, et ce qu'on appelle le placenta prévien qui donne aussi des saignements. Mais à ce moment-là, on file aux urgences et on fera une échographie et au moins vous serez fixé.
Quoi qu'il arrive, un saignement pendant la grossesse, on consulte. Merci beaucoup docteur Jimmy Mohamed pour tous ces conseils. Et donc tout de suite, nous accueillons notre invité pour le dossier du jour. C'est le docteur Areski Isri, parasitologue et chef de service à l'hôpital Avicenne de Bobigny.
15h, 16h, sans rendez-vous sur Europe 1.
Bonjour docteur.
Bonjour.
Alors bien sûr, avec vous aujourd'hui, on va parler des moyens efficaces pour combattre les poux. Je suis sûre qu'on a plein d'auditeurs parents qui sont déjà à l'affût et prêts à noter. Alors ces bestioles que tous les parents détestent. Mais d'abord, on va quand même peut-être parler un peu d'histoire. Est-ce que des poux, il y en a toujours eu depuis l'histoire de l'humanité ou pas?
Oui, je crois que les poux sont adaptés à l'homme depuis toujours, puisqu'on en a retrouvé effectivement sur les cheveux des momies égyptiennes.
Ah oui, quand même.
Vous voyez un petit peu, il y en a toujours eu. Et puis tous les animaux en ont, mais chacun... son espèce, l'homme a ses poux propres à lui et il les a depuis toujours.
Jimmy ?
Et à quoi ça ressemble un poux au microscope ? C'est un peu fascinant, mais ça
Alors, c'est vrai qu'un poux, ça mesure à peu près 2 mm, jusqu'à 3 mm pour quelques poux.
Les poux géants ? Non ?
Oui, les poux de corps surtout sont un peu plus gros. Les poux de tête, écoutez, c'est un insecte, donc il a une tête, un thorax, un abdomen, un peu comme une fourmi, avec trois paires de pattes. Il n'y a pas d'ailes. Il ne vole pas et il ne saute pas.
Et il y a des femelles et des mâles, on est d'accord.
Il y a des mâles et il y a des femelles et ça couple pour faire des petits.
Et la femelle, vous dites qu'elle est, vous m'avez dit ça en préparant l'émission, elle est parfaitement adaptée, sa physiologie, à nos cheveux, quoi, à notre cuir chevelu.
Alors si on regarde bien, les pattes des poux se terminent toutes par une pince, une sorte de griffe qui se replie pour s'accrocher aux cheveux. Et ça prend un cheveu instantanément, c'est un réflexe et il s'agrippe très bien aux cheveux. Mais un poux ne sait pas marcher sur une surface lisse, par exemple.
Jimmy ?
La chronique sexo, c'est à la fin, mais là, si on parle de la sexualité des poux, il paraît que c'est un peu chaud, non ?
Ça m'étonne pas de vous, ça. C'est chaud chez les poux. Comment ça se passe ?
Effectivement, les poux s'accouplent beaucoup. Ils passent leur temps à s'accoupler, à se nourrir, à se reproduire.
Ah, vous les avez bien observés. Vous avez fait des films, même, je crois.
Il y a un film, effectivement, qui a été tourné il y a quelques années, où on voit un accouplement de poux.
Et c'est acrobatique, je crois, vous dites
Ah oui, c'est très acrobatique comme accouplement. Le mâle passe sous la femelle et il recourbe sa partie postérieure pour aller chercher la femelle. Oh, c'est assez acrobatique. Ils se dressent pratiquement sur leurs pattes pour ça.
Alors docteur, on va poursuivre cette discussion dans quelques minutes. Surtout, vous restez avec nous.
Europe 1.
Dans un instant, on passe donc à la guerre contre les poux. Je vous le dis, vous allez apprendre plein de choses. Déjà, pourquoi beaucoup de traitements sur le marché, soi-disant efficaces à 100%, ne fonctionnent pas très bien. Et puis les peignes à poux, vous verrez que tous ne se valent pas. On va vous aider à choisir les meilleurs. A tout de suite sur Europe 1.
Europe 1, Mélanie Gomez.
Nous sommes ensemble jusqu'à 16h pour votre nouvelle émission Santé Bien-être, une émission sans rendez-vous. Vous êtes tous les bienvenus. À mes côtés, le docteur Jimmy Mohamed et notre invité, le docteur Areski Isri, parasitologue et chef de service à l'hôpital Avicenne de Bobigny. Alors docteur, il y a quelques minutes, vous nous avez expliqué comment les poux, finalement, ils sont absolument adaptés de par leur physiologie, finalement, à nos cheveux, notre cuir chevelu. Mais maintenant, on va passer à ce que tout le monde attend quand même, à ce qui est la bataille contre les poux, comment on s'en débarrasse. Alors d'abord, on va quand même parler des produits qui sont vendus en pharmacie. Il y en a des tas, des produits estampillés anti-poux, pas besoin de citer de marque, mais il y en a tellement. On dit, il y a eu plusieurs études qui l'ont montré, que les trois quarts ne seraient pas efficaces. Est-ce que c'est vrai ?
Alors, les poux sont devenus résistants aux insecticides depuis les années 90. Ça a commencé, puis vraiment confirmé à la fin des années 2000.
D'accord.
Je parle des insecticides pesticides, c'est-à-dire des neurotoxiques. Alors, depuis les années 2000, il y a des produits à base d'huile, des produits gras, comme la diméticone, qui sont maintenant commercialisés. Beaucoup ne sont malheureusement pas testés vraiment. Il n'y a pas d'études cliniques. Ils sont juste testés au laboratoire. Et quand ils marchent au laboratoire, allez, hop, on les commercialise.
Et oui, parce que sur la boîte, il y a souvent écrit 100% d'efficacité. C'est écrit dessus, sur l'emballage.
C'est vrai qu'au laboratoire, beaucoup de produits montrent une efficacité de pratiquement 100%. Mais c'est quand on passe sur les têtes, quand on passe en clinique, vraiment, c'est là qu'on constate que ça ne marche pas si bien que ça. On tourne autour de 60 à 80% pour les meilleurs produits.
Alors moi, quand j'étais enfant, justement, j'ai eu droit à ces insecticides, je pense, parce que c'était ces produits qui sentaient hyper fort. Ça prenait à la gorge, même l'odeur, mais ça avait l'air de marcher. Pourquoi on les a arrêtés, finalement ?
Alors vous parlez des insecticides pesticides, des neurotoxiques.
C'est pour ça que je suis dans cet état. Là.
Notamment, celui dont l'odeur était très forte, hein, c'est le malathion.
Oui.
C'est un dérivé des gaz de combat adapté à l'homme.
Merci, maman. Maman, il sur la tête. OK.
On prend mieux certains comportements.
Les plus utilisés pratiquement, même si on le trouve encore dans deux produits. Les poux sont devenus résistants à ce produit-là aussi.
Ah oui, c'est pas parce que c'était mauvais pour mon cerveau qu'on a arrêté, c'est parce que les poux, ça fonctionnait plus.
C'est
quoi.
Quand même toxique.
Ah, Jimmy ?
Et pour venir aux produits qu'on trouve en pharmacie, il y en a plein, les Pouxit, Apaisil, bref. Ces traitements donc, revendiquent 100% d'efficacité, on nous le dit dans les pubs, mais du coup c'est la publicité mensongère, on pourrait peut-être se retourner et dire qu'on nous vend n'importe quoi.
Alors les laboratoires qui revendiquent 100% d'efficacité se base sur des essais qui ont été faits en laboratoire où il y a eu effectivement 100% d'efficacité.
Dans le petit flacon, quoi, c'est ça. Mais sur la tête, c'est pas pareil. C'est-à-dire qu'on les noie sous les huiles dans les flacons
dans
et là, ça marche.
Dans les essais
quoi.
Cliniques, je n'ai pas de notion d'essais où ça marchait à 100%.
C'est-à-dire que l'essai clinique, ce que vous voulez dire par essai clinique, c'est sur la tête des gens. Par contre, en laboratoire, quand on asperge, on remplit un bocal d'Apaisil, Pouxit, etc., et qu'on met des poux dedans, ils meurent à 100%. Mais pas
au
sur la tête des enfants.
Oui, ça marche comme ça.
Et une fois sur la tête, on peut espérer quelle efficacité ?
En général, quand le produit est bon, ça tourne autour de 60 à 80% d'efficacité.
Ouais, c'est pour ça qu'ils ne sont pas si bons finalement, ces produits, effectivement, et qu'on en a toujours. Moi, je sais de quoi je parle. J'ai eu 4 mois de poux entre l'été et la rentrée à la maison. Et c'est un enfer. On les a tous essayés. Ça. On dirait que ça ne marche pas. Hein.
Mais il faut quand même préciser une chose, c'est qu'au laboratoire, c'est les conditions expérimentales. Hein, c'est-à-dire qu'on prend le poux, on le plonge dans le produit, on le surveille, il faut qu'il soit bien immergé, etc. Sur le terrain, c'est-à-dire quand on traite les gens, ça dépend comment on traite. Il y a des gens qui vont bien appliquer ça, d'autres moins bien.
Qui n'en mettent pas assez de produits.
On ne met pas assez de produits, ou alors il faudrait vraiment plonger la tête de l'enfant dans le produit, mais ça ne peut pas se faire.
Pourquoi je me gratte là depuis le début de l'émission par contre ? Est-ce que vous pouvez nous expliquer ? Parce que dès qu'on parle de poux, tout le monde se gratte. Est-ce que ça, on a une explication déjà ? J'ai pas de poux là, j'en suis sûre aujourd'hui, mais pourquoi je me gratte ?
Peut-être dans le subconscient.
Ah, hein.
On revoit déjà tout de suite ce qu'on a connu quand on était enfant. Voilà. Mais bon, toujours est-il que sur le terrain, ce n'est pas toujours évident d'avoir une bonne efficacité.
Jimmy ?
Le principe des antipoux, c'est d'étouffer le poux. Et du coup, on a pas mal de remèdes de grand-mère. On pourrait nous expliquer qu'il fallait mettre de l'huile de coco. Est-ce que ça marche ? Est-ce que ça pourrait être une alternative finalement un peu bio en plus ?
Alors, il est très difficile de répondre sur l'efficacité d'un produit qui n'a jamais été évalué. Donc quand ce n'est pas évalué, on ne peut pas dire ça marche.
Donc l'huile d'olive dans la salade seulement, pas sur les cheveux.
Ça ne fera pas de mal.
L'huile
hein.
d'olive, c'est très bon à manger, effectivement. Mais à ma connaissance, il y a un laboratoire qui l'a testé, un collègue, et qui a publié l'inefficacité de l'huile d'olive. Oui. Sinon, d'ailleurs, beaucoup de Méditerranéens n'auraient plus de poux.
C'est sûr, avec toute l'huile d'olive qu'on consomme. Merci beaucoup, docteur Areski. On va poursuivre cette discussion. Vous restez avec nous. Europe 1. Dans un instant, on continue à parler des poux et on va vous donner enfin le plan de bataille, le vrai qui fonctionne pour s'en débarrasser. Notamment un moyen efficace mais peu connu, il y a un médicament, une prise de comprimé, c'est réglé. Et puis on va vous expliquer des choses étonnantes, par exemple, contrairement à ce qu'on vous a dit depuis toujours, en fait, laver toute la literie, les doudous à 60 degrés, ça sert absolument à rien. Restez avec nous sur Europe 1.
Mélanie Gomez vous reçoit sans rendez-vous sur Europe 1.
De retour sur Europe 1 avec le docteur Jimmy Mohamed et notre invité, le docteur Areski Isri, parasitologue et chef de service à l'hôpital Avicenne de Bobigny. Alors docteur, il y a quelques minutes, vous nous avez expliqué pourquoi finalement les produits anti-poux qui sont vendus en pharmacie ne fonctionnent pas très bien. Le peigne par contre, on va en parler après, c'est assez efficace, mais il faut avoir de la patience. Et sinon, quand on veut se débarrasser des poux, il y a un autre moyen qui est peu connu. Il y a un médicament en fait qui existe. C'est quoi ?
Oui, il y a un produit qui s'appelle l'ivermectine, mais qui est prescrit seulement par le médecin. Vous ne pouvez pas l'avoir autrement. Que normalement, qui n'a pas l'indication poux dans son autorisation de commercialisation, mais qui est extrêmement efficace et que nous préférons réserver aux pédiculoses, c'est-à-dire quand on a des poux, aux pédiculoses qu'on n'arrive pas à traiter avec les autres produits.
Ce qui est le cas de tout le monde en fait, quasiment, parce qu'on n'y arrive pas. D'accord. Mais ce médicament, donc c'est un médicament assez ancien. Je crois que d'ailleurs, les gens qui l'ont inventé, ils ont eu le prix Nobel. Hein,
voilà, c'est un médicament dont les inventeurs ont eu le prix Nobel il y a 3 ans. C'est un médicament un peu miracle.
Antiparasitaire.
Il est très efficace contre les vers, contre la gale, contre les poux. Il a beaucoup d'indications. Il marche très très bien. Pratiquement pas de contre-indications ou très peu. Pas d'effets secondaires.
Non, mais
il est
sérieusement,
très bien
quoi, pourquoi vous ne nous en avez pas parlé avant, franchement ? C'est en un comprimé, c'est réglé ?
Si, on en parle. On en a toujours parlé, mais on le réserve aux cas un peu compliqués. C'est un comprimé pour 15 kilos.
Donc quelqu'un qui fait un enfant de 10 ans qui fait 30 kilos, on lui en donne deux et puis ainsi de suite.
Voilà,
c'est
on ne donne pas à un enfant de moins de 15 kilos.
D'accord. Il n'y a pas d'effet secondaire. On prend ça et les poux, ils sont morts.
Il n'y a pas d'effet secondaire.
Qu'est-ce qui se passe concrètement? On l'avale, ça passe dans le sang et ça tue le poux, c'est tout?
Voilà, ça passe dans le sang et le poux prend du sang. Donc, il avale le produit et ça va l'intoxiquer. C'est un neurotoxique aussi.
Et pourquoi on ne généralise pas ça? Il faudrait que tous les parents ils aient un peu de comprimé d'ivermectine à la maison et au moins c'est réglé.
C'est une arme de réserve. C'est un produit extrêmement efficace. On ne voudrait pas que ça passe dans le grand public comme ça pour tout et n'importe quoi.
On garde juste pour les
Sinon,
auditeurs d'Europe 1.
Sinon, on en avait vraiment envie... On en a besoin pour traiter quelque chose de sérieux, on ne pourra plus. Hein.
Jimmy ?
Parce que moi, c'est des choses que je peux voir en consultation, des parents qui viennent parce qu'ils ont essayé plein de méthodes et ça ne marche pas. Et ce traitement, je le connaissais pour le traitement de la gale, qu'on a souvent utilisé, mais même j'ai l'impression que nous, généralistes, on n'est pas forcément au courant de cette indication. Alors vous l'avez dit, hors AMM, donc hors autorisation de mise sur le marché, mais on pourrait peut-être aussi le diffuser auprès des professionnels.
Je pense que si vous avez une famille qui a des problèmes avec les poux et qui n'arrive pas à s'en sortir,
c'est une très bonne indication.
Une cure d'ivermectine, donc il y a deux prises le premier jour, on refait la même chose 10 jours après, c'est radical, ça marche.
Et pourquoi on en refaire 10 jours après? Vous pouvez expliquer?
Parce que le médicament n'agit que sur les poux qui se nourrissent, or il y a des œufs et les œufs ils ne se nourrissent pas, il faut attendre l'éclosion, l'émergence des poux.
Et donc, traitement en plus sans effet secondaire qui est normalement plutôt bien toléré.
Voilà, il est très bien toléré. Attention, il y a une contre-indication puisque... Effectivement, vous pouvez voir toutes sortes de monde. Les gens qui viennent de régions centrafricaines et qui peuvent avoir certains vers, comme l'aloise, ceux-là, il faut faire très attention avec eux. Ils peuvent faire une réaction importante.
Très bien. Bon, écoutez, on a noté, en tout cas, l'ivermectine, ça peut résoudre les gens qui ont des problèmes sans fin avec les poux. Moi, je note en tout cas ça. Je pourrais demander une ordonnance assez rapidement. Très bien. Alors, il y a autre chose que vous m'avez dit en préparant l'émission qui m'a interpellée. Vous m'avez dit, lavez toute la literie à 60, là, les doudous, les draps, quand le gamin il a des poux, ça sert à rien. Alors, vous auriez pu m'épargner pas mal de lessive. Comment ça se fait que ça sert à rien? On nous dit de faire ça pourtant depuis la nuit des temps, j'ai l'impression.
Alors, le poux de tête ne vit que sur la tête. Hein. Il est sur le cuir chevelu, il a tout ce qu'il lui faut à ce niveau-là. Les cheveux, c'est la forêt. Les cheveux, c'est là que la femelle accroche ses œufs. Et puis, il a le garde-manger qui est servi du matin au soir. Vous le sortez de là, le poux ne peut pas survivre. Il meurt assez rapidement, en 4 à 6 heures, allez, grand maximum une dizaine d'heures. Ce qui fait qu'on ne le retrouve nulle part ailleurs que sur la tête. Il ne va pas sur le lit, il ne va pas sur les cols, il ne va pas sur les manteaux. Sauf si on se coiffe. Si on se coiffe avec un peignet à poux, on fait tomber des poux, ils peuvent tomber n'importe où.
Ah oui, s'accrocher dans la brosse. Donc les brosses à cheveux, quand même, on peut les traiter. Oui, c'est ça.
Les brosses à cheveux peuvent être contaminées aussi.
Ah, et contaminées,
exceptionnellement,
donc,
on arrête aussi ce conseil que je donnais aussi, malheureusement, de laver la literie.
Ils ont donné des mauvais conseils.
Non, mais c'est vrai. Même et pour les vêtements qu'on ne pourrait pas traiter à 60 degrés, on lui disait de le mettre dans un sac durant 2 jours pour laisser le poux mourir. Donc même ça, ça ne sert à rien en fait.
Non, non seulement ça ne sert à rien le sac.
Il nous a vraiment balayé tout ce qu'on croyait.
Alors non seulement le sac ne sert à rien, mais en fait si vous voulez conserver vivant des bestioles, comme les poux, vous les mettez dans un sac, vous le fermez hermétiquement avec les vêtements, vous lui donnez les meilleures conditions d'humidité pour survivre.
Ah bah c'est génial. Alors là, ça c'est... Moi j'avais en plus mon fils qui pleurait devant le sac rempli de doudous, enfermé pendant 2 jours pour rien, en plus on les laisse vivants. D'accord, voilà. Bon, donc ça on oublie, on épargne du coup pas mal de lessive, hein, c'est bien. Par contre le peigne à poux, je reviens sur le peigne à poux, ça marche, hein. Vous êtes assez d'accord, mais pas n'importe quel peigne, c'est quoi le peigne idéal?
Alors un peigne fin peut très très bien marcher. Alors le meilleur peigne, je ne peux pas donner le nom, c'est un peigne avec des dents assez courtes, métalliques. Il est blanc, il a une petite loupe, il est commercialisé sur Internet seulement.
Il ne vaut pas cher en plus.
Il ne vaut pas cher, je n'ai pas de royalty dans la boîte, je ne la connais même pas. Mais il donne d'excellents résultats.
3 euros je crois. Hein.
Il faut le nettoyer régulièrement. Il peut même enlever les lentes, mais attention, on ne peut pas l'utiliser sur n'importe quel cheveu. Il faut avoir des cheveux courts et raides, ou alors... Il faut mettre un produit pour démêler les cheveux ou alors le faire avec des cheveux mouillés.
Mais un peigne bien passé tous les jours pendant une semaine, on peut s'en débarrasser des poux comme ça?
Absolument. Quand on le fait régulièrement, on peut se débarrasser totalement des poux.
Jimmy?
Oui, alors est-ce qu'il y a des moyens de prévention contre les poux?
Moi, il a 3 garçons, il est tranquille
ouais,
pour l'instant.
Vous allez porter l'œil, comme on dit ce soir, ils vont tous avoir plein de poux. Mais est-ce que, par exemple, on ne pourrait pas appliquer, souvent on parle des huiles essentielles, par exemple la lavande, est-ce que ça marche? Est-ce que c'est une très mauvaise idée?
Alors, il n'y a aucun produit répulsif qui marche contre les poux. Nous les avons achetés à peu près tous, nous les avons testés. Ils s'accrochent très,
lavande,
très bien aux cheveux traités, même avec la lavande, ils s'accrochent dessus. Ils piquent à travers, donc ça ne sert à rien. Alors, le seul moyen de prévention, mais on ne peut pas le recommander à tout le monde, c'est la boule à zéro, mais ça, ce n'est pas applicable.
D'accord, okay. Mais la petite goutte de lavande derrière l'oreille, ça ne sert vraiment à rien.
ça ne marche pas.
Bon, très bien. Il n'y en a pas d'autres de moyens de prévention, si ce n'est pas les huiles
Les seuls conseils qu'on peut donner aux familles, c'est de surveiller la tête des enfants et dès qu'il y a le moindre pouls, de traiter immédiatement.
Et de sortir l'ivermectine.
Hein.
Alors, du coup, vous les avez testés, vous, ça ne marche pas. Mais est-ce qu'il y a des pouilles déjà? Est-ce qu'il y en a toute l'année, finalement? Parce que bon, là, à la rentrée, on en parle beaucoup. C'est vrai que c'est le retour des vacances, ils se remettent en collectivité. Est-ce que finalement, il y en a toute l'année? Et est-ce qu'il y a vraiment des enfants qui ont des têtes à poux?
Alors, les pouilles, il y en a toute l'année. Hein. Il n'y a pas de génération spontanée. Ils ne disparaissent pas pour revenir à un moment donné. Il y en a toute l'année. Est-ce qu'il y a des têtes à poux? Oui, certainement, il y a des enfants qui attrapent plus souvent les poux que d'autres. Ce sont en général des enfants qui ont peut-être un comportement un peu différent.
Ce ne sont pas des enfants sales, hein, on est d'accord.
Ils aiment bien les câlins. Non, ce n'est pas du tout les enfants sales, ça n'a rien à voir. C'est des enfants qui ont peut-être un peu plus... ils aiment les câlins, ils jouent tête contre tête plus facilement. Voilà, mais pas plus. Hein. Et puis je ne sais pas s'il n'y a pas autre chose. Est-ce qu'il y a des phéromones? Ça, je ne sais pas.
Ah, genre une odeur qui pourrait aller attirer les poux, oui, peut-être une odeur corporelle.
Oui, mais ça, ce n'est pas connu, ce n'est pas défini.
Qu'on dit les moustiques, parfois, ils aiment les sangs sucrés. Alors,
ah, c'est faux, ça,
mais oui, c'est complètement faux. Mais est-ce que pour les poux, il y aurait peut-être quelque chose de ce genre-là? Ouais.
Les moustiques, comme les poux, ne sont pas plus attirés. Vous savez, ce qui les intéresse, c'est quelqu'un à piquer.
Ah, c'est tout.
S'il y a une peau avec du sang, voilà ce qui les intéresse.
Vous pensez qu'un jour, on arrivera à les éliminer définitivement de la planète, les poux? Parce que franchement, on est d'accord, ça ne sert à rien, les poux, pour l'écosystème ou je ne sais pas quoi.
C'est le rêve de beaucoup de gens.
Je déteste, hein. On le sent. Hein.
C'est justifié, je pense.
C'est le rêve de beaucoup de gens d'éradiquer
les poux. Moi, je suis pour l'extermination
de
des poux. Moi.
Bon, écoutez, on a essayé, on a eu des armes extraordinaires, les insecticides. Et pourtant, les poux ont développé une résistance à ça. Moi, je crois que c'est un rêve utopique, mais on ne va pas y arriver.
Très bien. Merci beaucoup, docteur Areski, d'être venu sur notre plateau. Grâce à vous, on a appris plein de choses sur les poux, ces bestioles qui sont le cauchemar de nombreux parents en cette période de rentrée. Merci encore.
Merci à vous.
Dans un instant, notre chronique, les mots du quotidien. Et aujourd'hui, on s'est intéressé à la NASH. Ça vous dit rien comme ça, mais c'est pourtant la maladie du siècle, selon les spécialistes du foie. Cette maladie qu'on dit aussi s'appelait la maladie du foie gras. Elle est de plus en plus fréquente. On vous dira tout. À tout de suite sur Europe 1.
Sans rendez-vous. 15h, 16h sur Europa. Mélanie Gomez.
Votre émission Santé sans rendez-vous, c'est tous les jours de 15h à 16h en compagnie du docteur Jimmy Mohamed. Alors il est temps maintenant de passer à notre séquence Les mots du quotidien. Et aujourd'hui on parle de la NASH, la maladie que les hépatologues ont baptisée aussi la maladie du foie gras ou la maladie du soda d'ailleurs. Vous en avez-vous déjà entendu parler? Par quoi est-elle provoquée? Justement, Benjamin Lévesque a été vous donner la parole. On écoute son micro-trottoir.
Stéatose hépatique.
L'hépatique, la peau, moi je dirais que c'est une maladie de la peau.
C'est un acronyme NASH,
ouais.
N-A-S-H, c'est un neuro quelque chose.
Une espèce de tumeur ou alors des plaques.
Un cancer du foie, c'est un foie qui est malade en fait, c'est ça. Donc l'ostéomachondose, c'est un foie malade.
Le foie répond plus quoi.
Je vois quelque chose d'énorme et rempli de gras dégoulinant dedans. Ouais.
Alors moi je dirais que c'est avec la gastronomie française, non?
Je pense quand on a une mauvaise hygiène de vie, qu'on boit trop d'alcool peut-être aussi.
Mauvaise alimentation. Trop grasse, trop sucrée, manger du McDo en permanence, des pizzas, trop de graisse.
Par exemple, foie gras de canard, des choses comme ça. Voilà, au fur et à mesure, le foie il prend un coup.
On le soigne en faisant une cure avec du jus de citron et de l'ananas.
Oui, bon, ça doit se soigner comme une cirrhose. Avec une petite greffe de foie, on n'en parle plus.
Voilà, une petite greffe de foie, on n'en parle plus. Faut pas exagérer quand même. Hein. Je pense que la dame, elle a jamais vu ce que c'était vraiment une greffe de foie. La NASH, Jimmy, d'abord, on va reprendre un petit peu au début. C'est donc une maladie du foie malade. Il y a certaines personnes qui l'avaient compris dans le micro-trottoir. Mais ce n'est pas à cause de l'alcool. Parce que le foie, souvent, la cirrhose, tout ça, on sait que c'est des maladies qui sont causées par l'alcool. Mais là, ce n'est pas le cas.
Oui, c'est donc la NASH, la stéatose hépatique qu'on dit non-alcoolique. Donc, ce n'est pas lié à la consommation d'alcool. En principe, le foie n'est pas gras. Et lorsqu'on apporte beaucoup plus de gras de par notre alimentation, il devient surchargé, notamment triglycérides, et ce foie va avoir des lésions inflammatoires, donc au niveau cellulaire, qui vont se répercuter avec de la graisse autour du foie, qui va être un peu étouffé,
qui devient
ne
foie
pourra
gras.
Pas, et devient du foie gras, et qui ne pourra pas assurer ses fonctions d'épuration, car le foie c'est une centrale qui épure et qui permet de métaboliser de nombreux médicaments et de nombreux aliments.
C'est indispensable pour notre bon fonctionnement.
Et on arrive à cette stéatose hépatique qui évolue à bas bruit, lentement mais sûrement, vers la cirrhose.
Alors on a compris ce que c'est cette NASH, mais donc quand on en souffre, c'est forcément gravissime tout de suite?
Non, alors il y a le premier stade où on fait une échographie un peu comme ça, de dépistage et on se rencontre au compte-rendu qui a marqué stéatose hépatique non alcoolique, foie gras. Et à ce moment-là, ce n'est pas gravissime car le foie assure encore ses fonctions d'épuration. Mmh. La prise de sang souvent est normale ou parfois montre une discrète élévation des enzymes hépatiques.
C'est lesquelles ? Les transaminases, c'est ça ?
Exactement, les transaminases. Et dans ces cas-là, il suffit d'appliquer des règles d'hygiène simples.
Manger moins gras, moins sucré.
Exactement, ouais. Manger, bouger, comme on nous dit, 5 fruits et légumes. Et à partir de ce moment-là, les lésions peuvent...
On peut régresser.
Exactement, on peut régresser ou tout du moins limiter l'évolution de la maladie qui, à terme, évolue vers
une vraie complication. Premier stade, ça, parce que les vraies complications, ça peut aller jusqu'où quand même ?
Et ça peut évoluer jusqu'à la cirrhose. Donc on parle au début de la stade d'inflammation au stade d'hépatite qui ne fait pas mal et on ne s'en rend pas compte, la maladie évolue à bas bruit, vers le stade de cirrhose avec par la suite la nécessité d'une greffe de foie comme dans une cirrhose classique.
Et cirrhose, ça peut entraîner aussi un cancer hépatique, hein, donc on parle de choses sérieuses, ça fait un peu flipper quand même tout ça. Comment on en arrive là ? C'est vraiment si fréquent que ça en France d'ailleurs ?
Si on donne quelques chiffres, en 2019, on estime à 16,7% de la population qui aurait une stéatose non alcoolique.
Quand même, presque
plutôt
une
des
personne
hommes,
sur 10. Ouais.
Donc 25% d'hommes et 10% de femmes. Et on sait que plus on vieillit, plus le nombre de cas augmente et il atteint 36% pour les hommes de 68 à 78 ans.
Ah oui.
Un homme sur trois. On sait que c'est très fréquent, notamment chez les patients diabétiques et chez les patients qui seraient obèses. On estime ce chiffre à 80 et 60%.
Ouh là, donc, oui, là,
on
c'est
sait
énorme.
Que c'est associé à d'autres maladies cardiovasculaires comme l'hypertension. Donc c'est tout un terrain, on appelle ça le syndrome métabolique, qui évolue vers aussi d'autres complications, notamment artérielles.
Et en clair, si ça touche autant les personnes qui souffrent d'obésité ou les personnes diabétiques, c'est que c'est la malbouffe, le sucre qui est en cause.
Oui,
en cause,
exactement. Ça a été très médiatisé par Pierre Ménès lorsqu'il a eu cette maladie. Et justement, on a pu enfin la connaître un peu plus pour peut-être sensibiliser les gens. Mais le fait d'avoir des règles d'hygiène de vie de base pourra limiter l'évolution parce qu'aux États-Unis, ils sont bien loin devant nous. C'est déjà la deuxième cause de greffe du foie chez les Américains. Donc attention, c'est ce qui nous guette dans quelques années.
Et donc pour l'éviter, c'est quoi ? On évite le sucre, on évite les sodas.
Les sodas, c'est la maladie du soda, on appelle ça, parce que forcément, c'est hyper sucré. Regardez ce qu'on le contient en nombre de sucre, à une canette de soda classique. C'est affolant, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi les plats industriels, les pizzas, donc tout ce qui serait... Pas pris au marché ou cuisiner vous-même aura des conséquences sur une éventuelle stéatose non alcoolique.
Mangez, bougez pour éviter la nash. Merci beaucoup docteur Jimmy Mohamed pour tous ces conseils.
Europe 1.
Dans un instant, la dernière partie de cette émission, vous êtes avec nous jusqu'à 16h et restez surtout car juste après, on se retrouve pour la chronique sexo. Aujourd'hui avec notre sexologue Catherine Blanc, on va parler de la libido masculine qui, contrairement aux idées reçues, elle aussi peut parfois montrer des signes de faiblesse. Restez sur Europe 1.
Europe 1, Mélanie Gomez.
La santé et le bien-être, c'est sur Europe 1 et nous sommes avec vous depuis 15h, toujours à mes côtés le docteur Jimmy Mohamed et pour cette dernière séquence de l'émission, nous sommes rejoints comme tous les jours par Catherine Blanc, sexologue et psychanalyste à Paris. Bonjour Catherine.
Bonjour à tous les deux.
Alors aujourd'hui, on va tenter de répondre à la question de Nathalie. Nathalie qui nous a écrit de Strasbourg, je vous lis sa question. Mon mari a une libido qui n'est pas très abondante. Dois-je redoubler de préliminaires, de mise en scène pour la stimuler ? Alors Catherine, Nathalie, elle s'inquiète de la libido de son mari. C'est vrai que c'est rare qu'on entende comme ça, un homme qui n'a pas de libido. Enfin, en tout cas, on n'en parle pas ouvertement. C'est un sujet pourtant qui est plus fréquent qu'on ne le croit.
On se demande pourquoi ça ne pourrait pas être aussi bien une difficulté masculine que féminine.
On parle souvent des baisses de libido des femmes, mais pas des hommes, c'est vrai. Hein.
Eh bien, parce que peut-être les hommes se plaignent plus, revendiquent qu'on réponde à leurs désirs. Et donc, dès lors que la réponse ne vient pas, eh bien, ils disent plus haut et fort leur souffrance ou leur frustration. Mais c'est aussi vrai du côté féminin de souffrir de l'absence de libido masculine. Alors certaines s'en arrangent, donc n'en parlent peut-être moins. Puisque finalement, si monsieur n'en a pas envie, que madame est occupée à ses enfants, eh bien finalement, il y a une sorte d'équation confortable. Mais évidemment que les hommes subissent les mêmes hauts et bas de leurs désirs. Et quand les femmes peuvent éventuellement le masquer par une participation malgré tout à la sexualité, les hommes sans érection évidemment ne peuvent le cacher.
Mais pourquoi un homme il manque de libido ? Parce que lui il n'a pas de bébé, il n'a pas de ménopause, c'est la fatigue, ça peut venir de quoi ?
Plein de choses, la fatigue en effet, des préoccupations ailleurs, puisque pour faire l'amour, pour avoir du désir, il faut être dans un projet de sexualité, un projet de relation. On peut avoir des préoccupations, on peut avoir des doutes quant à soi, on peut avoir un sentiment d'infériorité, vivre des moments douloureux professionnels où on est renvoyé à une image négative de soi. Et ou des conflits dans sa relation et qu'on ne veut pas donner son sexe à l'autre pour qu'il se fasse du bien parce qu'on a envie de réserver son corps à soi-même pour témoigner d'une limite à ne pas franchir quand les tensions se font entre l'homme et la femme, par exemple.
Jimmy ?
Et les troubles de la libido chez l'homme, ça ne touche pas forcément le vieil homme, quelqu'un de jeune, comme je sais pas, Mathieu Noël, par exemple, pourrait avoir des problèmes de libido. Mais est-ce qu'on pense qu'en vieillissant, on est moins performant, mais
c'est
finalement,
pas gentil, hein.
Quand on est un peu jeune, on peut aussi avoir ces problèmes-là ?
Bien évidemment. L'erreur, effectivement, est de penser que c'est une histoire de vieillissement, parce que, évidemment, en vieillissant, il y a des tas de problématiques, notamment vasculaires, par exemple, qui peuvent être à l'origine d'une difficulté érectile. Ça ne veut pas dire, d'ailleurs, d'une absence de libido, mais d'une difficulté à le témoigner par le biais de l'érection. Mais sinon, comme c'est fortement un organe sensible que le pénis, puisqu'il est la traduction de son ambition de pénétrer l'autre, de son ambition de faire avec l'autre, eh bien, il suffit qu'on soit bousculé émotionnellement pour que tout d'un coup, tout cela se désorganise. Et les jeunes hommes sont autant atteints...
Ça peut vous arriver, Jimmy.
Par la peur.
Alors, nous ne sommes pas là pour parler de mon cas.
Non, mais vous parliez des hommes jeunes, hein, vous voyez, ça peut toucher ce qu'elle dit, Catherine.
Voilà, ça peut être effectivement tout le monde. Ça peut être aussi l'angoisse de faire l'amour ou l'angoisse ou la situation qui est inadéquate. Imaginons que j'ai envie de faire l'amour avec une femme alors que j'en ai une autre dans ma vie. Et bien évidemment, tout d'un coup, tout ça se bouscule, ça fait des tensions, ça fait des culpabilités, ça fait des difficultés du coup à se sentir tranquille.
Alors pour revenir au cas de Nathalie, qui vous avez vu, elle a dit « mon homme a peu de libido » et on a l'impression que forcément c'est de sa faute et qu'il faut qu'elle fasse quelque chose. C'est ce qu'elle dit. Est-ce que je dois redoubler d'originalité, lui faire des mises en scène? Vous avez vu, on dirait qu'elle croit que c'est elle le problème, forcément.
Mais je trouve que quand vous l'avez dit, vous avez surtout insisté sur le mot qui est le plus important, c'est « mon ». Comme si c'était son homme et donc son pénis.
Ah oui,
et que
ça.
Son pénis devait obéir au doigt et à l'œil. Et que s'il n'obéissait pas, il fallait peut-être qu'elle fasse une danse du ventre ou qu'elle utilise certains actes sexuels, dont la fellation par exemple, ou des choses comme ça. Je vous rappelle que Romain Gary disait que c'était à aucun moment une méthode de réanimation, mais bien une caresse dans le cadre normal d'une relation de couple.
Et donc elle ne doit rien faire alors ?
C'est pas rien faire, c'est en tout cas accorder à l'autre d'avoir son corps qui réagit comme il réagit, comme il le peut. Bien sûr qu'il peut y avoir une histoire, d'ailleurs peut-être lui dira-t-il, c'est vrai que tu n'es quand même pas très sexy, tu ne fais pas beaucoup d'efforts ou tu ne mets pas beaucoup en scène notre relation. C'est à se poser la question pourquoi d'ailleurs ça devrait être absolument la femme qui met en route ce sexe.
Il pourrait la faire lui la danse du ventre, hein, c'est vrai.
Exactement, et puis le pénis d'un homme appartient à l'homme. Maintenant, c'est aussi une histoire de relation et on n'est pas là à attendre que ce pénis tout d'un coup se dresse pour répondre à un désir non exprimé féminin et non acté par une relation. Donc il n'y a pas de responsabilité, elle est conjointe bien sûr, puisque c'est une histoire de relation. Mais ça reste quand même le pénis d'un homme avec ce qui se joue intimement en lui.
Merci beaucoup Catherine pour tous ces conseils, on vous retrouve bien sûr demain dans son rendez-vous, on parlera notamment du lancement de la campagne de vaccination contre la grippe qui fait chaque année des milliers de morts en France. On a beau dire tout ce qu'on veut, le moyen aujourd'hui le plus efficace pour l'éviter, c'est de se faire vacciner, surtout quand on est fragile.
15h, 16h, sans rendez-vous sur Europe 1. Mélanie Gomez.